Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipée sauvage, l'émission hybride pour se vider la tête tout en se la remplissant. Vous saisissez le concept, Eva ?
Mais je... Moi... Bon.
Bonjour Eva Roque.
Bonjour Mathieu. J'étais en train d'essayer de capter, enfin physiquement, oui, visuellement, comment
essayais,
ça pouvait marcher, mais
tu,
ça marche pas.
Mais tu comprends l'idée.
Moi ça se vide, voilà. Mais ça ne se remplit pas forcément.
Toujours un plaisir de vous retrouver Eva. Oui, mais j'y vais, ça vaut mieux pour l'émission. Vous êtes vraiment la clé de voûte de notre émission Eva. Nous sommes partis pour 2 heures de découverte, d'éclat de rire, mais aussi de suspense. Puisque chaque après-midi, vous avez la possibilité, vous le savez, de noter les journalistes qui défilent au micro. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus palpitant, sous l'œil d'un invité d'honneur un peu particulier aujourd'hui, puisqu'on peut l'avouer d'entrée de jeu, il est l'idole d'Eva. C'est même pour lui plaire qu'elle avait décidé l'année dernière de se mettre à la trompette. Les funestes conséquences qu'on sait pour la musique au sens large et pour le jazz en particulier, le génie français de la trompette, Ibrahim Malouf, est notre invité cet après-midi. Ah, c'est quand même un peu mieux. Bonjour Ibrahim Malouf.
Bonjour.
Je suis désolé Ibrahim,
On dit toujours qu'il faut 20 ans pour faire un bon violoniste. Combien de temps il faut pour faire un bon trompettiste, ou en tout cas un trompettiste acceptable? Est-ce qu'il faut qu'elle s'accroche ou c'est déjà trop tard?
Déjà je ne savais pas qu'il fallait 20 ans pour faire un bon violoniste.
C'est ce qu'on dit, vous savez, on dit souvent qu'il faut... Non, le proverbe exact je crois est: il faut 10 ans pour faire un bon pianiste et 20 ans pour faire un médiocre violoniste. Enfin un violoniste moyen quoi.
Ah, autrement dit le violon c'est un instrument
Exactement,
impossible à maîtriser
dur.
Quoi. C'est vrai que c'est un instrument qui est très difficile, le violon. Mais chaque instrument a ses difficultés. La trompette en fait, du coup Eva peut-être qu'elle doit savoir. Mais en fait, ce qui est très difficile, c'est déjà d'émettre un son. Déjà, donc il y a parfois des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui peuvent mettre des semaines avant de vraiment produire un vrai son.
Par exemple, pour les parents qui nous écoutent, on peut pas commencer la trompette à l'âge de 7-8 ans, par exemple, c'est trop tôt.
Si on peut
on peut émettre un son même à cet âge-là.
C'est même d'ailleurs plutôt mieux.
Ah d'accord, de commencer très jeune.
Ouais, parce que souvent les adultes ont une idée fausse de la trompette, comme quoi il faudrait absolument jouer fort, souffler fort et que c'est difficile, et du coup ils mettent beaucoup trop d'énergie. Et du coup, les lèvres se bloquent et ne vibrent pas comme il faut et ne sont pas assez souples. Et du coup, ça marche pas. Alors que les jeunes, ils se posent pas trop la question. Juste, ils soufflent naturellement et ça peut être beaucoup plus facile finalement.
Ibrahim Malouf, son nouvel album Sens est disponible. Pourquoi Sens avec un E à l'envers ou un 3? Je ne sais pas.
Alors ça, c'est long. On m'a dit qu'il y avait à peu près 2 heures d'émission.
Oui.
Est-ce qu'on peut en rajouter une petite?
D'accord. Bon, en tout cas, vous nous raconterez, vous aurez tout le loisir de nous raconter durant ces 2 heures, puisqu'on va évoquer évidemment cet album aux couleurs latines. Mais d'abord, je vous présente nos 2 premiers journalistes en compétition aujourd'hui. Oui, cette émission sera intégralement bruitée à la trompette, même le thème de Jurassic Park qui accompagne traditionnellement la présentation des chroniqueurs. À ma gauche, un des membres les plus sérieux de la rédaction d'Europe 1, ce qui au passage, vous allez voir, en dit long sur les autres. Thierry Geffrotin est notre expert musique classique, amoureux de Beethoven, de Mozart, de Bach, de Rachmaninov et aussi de Wagner, raison pour laquelle il se rend dès qu'il le peut au festival Wagner de Bayreuth, qu'il adore pour la qualité musicale de cet événement, mais... pas que.
À Bayreuth, ce qui est bien, c'est les entrailles qui durent, on peut manger des grosses saucisses.
Bonjour Thierry Geffrotin.
Ah mon Dieu, bonjour à tous. C'est vrai en plus.
Mais vous avez tout à fait raison d'aimer la saucisse. Aujourd'hui, à l'occasion de la présentation d'une nouvelle cérémonie créée par Canal+, dans une salle mythique, les Olympia Awards, qui auront lieu, Eva,
le mercredi prochain, le 11 décembre. Quoi,
je pensais que vous me répondrez à l'Olympia, comme ça j'aurais dit bravo.
Ah,
vous
nous
parlez, Thierry,
aussi, si vous
de
voulez,
ce
pardon,
nom
pardon.
Qui brille toujours, je crois, au fronton d'une des plus célèbres salles de concert de France, Bruno Cocatrix.
Ah oui, il a transformé cette salle qui était un cinéma en très mauvais état en un lieu magique, mythique, où est passé Ibrahim plusieurs fois. Hein.
Vous allez nous raconter donc l'histoire de Bruno Cocatrix.
De Bruno Cocatrix.
À ses côtés, Ibrahim Malouf, c'est ce qu'on appelle une heureuse nature. La température peut monter de 3 degrés, la banquise foutre le camp, Donald Trump préouvrir les centrales à charbon, rien n'entamera sa foi inébranlable en l'humanité. Anne Le Gall, notre expert environnement, a ce don incroyable de toujours tout prendre avec le sourire.
J'ai commencé le journalisme santé en 2003 au moment de la canicule.
C'est un bon souvenir. Aujourd'hui c'est la grève générale, il n'y a pas un bus, pas de métro, tous les trains sont annulés, les gamins sont seuls à la maison devant trop, ils se font goûter au chipster parce que la nounou évidemment n'est pas arrivée. Quelle belle journée, hein, Anne.
Tout à fait.
Anne, avec quel sujet comptez-vous l'emporter aujourd'hui?
On va parler de réchauffement climatique, on va parler des tipping points, qui sont ces points de basculement à partir desquels il sera un petit peu trop tard pour pouvoir enrayer le réchauffement climatique. Mais voilà, la bonne nouvelle, parce qu'on reste sur une bonne note, c'est que pour l'instant, il n'est pas trop tard. Je vais vous raconter
tout ça. Il n'est pas trop tard, on est encore assez loin des tipping points.
On n'est pas loin, mais on peut encore agir.
Merci Anne Le Gall, le programme est donné, l'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Ibrahim Malouf qui nous accompagne cet après-midi. Et si pour vous, chers auditeurs, le summum de la trompette jazz, c'est le solo d'Alain Chabat dans La Cité de la Peur, je vous propose de vous plonger rapidement dans la discographie de notre invité. Una Rosa Bianca, je traduirai par Une Rose Blanche. Premier titre assez planant de ce nouvel album, Sens, 11e album studio déjà. Vous avez signé 10 bandes originales de films, je compte même pas les courts-métrages. Vous êtes un hyperactif de la musique, ça correspond à votre nature profonde ou c'est juste que le succès étant là, il faut enchaîner quoi, les gens vous réclament.
Je crois que je me suis jamais trop posé la question. J'adore composer, j'adore produire et j'ai eu la chance de n'avoir eu que des portes fermées au moment où je voulais sortir mon premier album. Tout le monde m'a dit non et donc j'ai monté mon propre label. Et du coup, ben, je suis indépendant, donc je peux sortir plein d'albums et des projets et personne ne me dit « Ah non, c'est pas le moment » ou «
Vous faites ce que vous voulez, vous êtes
libre. » Je sais pas, je fais ce que je veux.
Voilà, alors, on connaît votre goût pour la musique orientale, vous êtes originaire du Liban. Ouais. Là, il y a des couleurs latino dans cet album. Vous avez fait un voyage à Cuba, qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, j'ai une partie de ma famille déjà qui est sud-américaine et je vis avec l'Amérique du Sud depuis plus de 20 ans, mais j'en parle pas trop parce que comme je suis classé trompettiste de jazz d'origine orientale, alors du coup si tu dis que
vous
c'est
n'aimez
un peu...
pas les étiquettes, hein, vous avez envie de faire tout exploser, mais c'est ce que vous faites d'ailleurs.
C'est pas que j'aime pas, mais c'est que je trouve que ça réduit, mais tout le monde en fait, ça réduit un peu tout le monde.
Nouvel album Sens qui est disponible, il fait beaucoup de choses, mais il serait bon qu'il accepte aussi d'être le prof de trompette des baroques.
Non.
Ibrahim Malouf passe l'après-midi avec nous.
Europe 1.
À suivre, alors que des uluberlus alarmistes climato-flippés comme Greta Thunberg s'exclament
« Tirez-vous, on est foutus !»
avec la voix de Christian Clavier dans Papy fait la résistance, elle a le mérite de rester calme. Même quand Donald Trump profère une énième connerie climato-sceptique, elle arrive à être positive.
C'est trop mignon.
Ce n'est pas le cas des scientifiques
pas ça, non, pas
qui, à l'occasion de l'ouverture de la COP25, poussent un cri unanime dans la revue Nature. À cette occasion, on posera une question bête sur les tipping points. Vous savez, ces fameux points de basculement climatique dont parlent les scientifiques. Mais au fait, pourquoi, même si on les dépasse, on ne pourrait pas revenir en arrière ensuite ? À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures plus chargée que le périph' parisien en cette journée de grève des transports. Et entre nos journalistes en compétition, c'est d'ailleurs à peu près la même ambiance qu'entre les automobilistes bloqués dans les embouteillages. Heureusement pour vous, décontracter cet après-midi et oublier tous ces tracas, Anne Le Gall a une bonne nouvelle. À moyen terme, on va tous crever. À l'occasion de l'ouverture de la COP25, les scientifiques publient en effet un appel dans la revue Nature. Appel inquiétant, c'est un euphémisme d'ailleurs. Avant d'entamer notre chronique, Anne, je propose une parenthèse Malouf. Voilà, on respire fort, on écoute quelques notes d'All I Can Say, extrait du nouvel album de notre invité Ibrahim Malouf. On se donne la main et ensemble, on reprend confiance dans l'homme. Anne, dites-nous ce qui vous tracasse.
C'est vrai que ça fait du bien la musique. Bon, on va pas tous crever.
Ça, c'est une grande pensée.
Non, mais ça fait du bien. Bon, on va pas tous crever tout de suite. Le propos va être un petit peu plus nuancé. Mais c'est vrai qu'en matière de réchauffement climatique, souvent, on est sur des temps longs. Quand on parle de l'accord de Paris, on dit qu'on va limiter la hausse des températures à 2 degrés à l'horizon 2100. On se dit, bah, c'est bon, on a le temps. Mais c'est une erreur. Parce qu'en fait, c'est pas parce que l'évolution est lente dans le climat qu'elle n'est pas dangereuse. Exactement. Parce que les scientifiques savent qu'il y a des seuils à partir desquels il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ou c'est comme la casserole de lait sur le feu. Une seconde après, elle déborde. Et c'est ce qu'on appelle les tipping points, donc les points de basculement. Une fois qu'on les a franchis, il est impossible de réparer les dégâts que l'homme a causés sur l'environnement.
Mais alors, ça correspond à quel type de dégradation, par exemple ?
Alors, par exemple, un des tipping points, c'est la fonte du permafrost. Le permafrost, vous savez, ce sont ces terres gelées qui sont en permanence gelées en Sibérie ou au nord du Canada. Ces sols renferment un gaz qui est 23 fois plus polluant que le CO2, c'est le méthane. Donc, si le sol dégèle, le gaz enfermé dans le sol va partir dans l'atmosphère. Et donc là, c'est pareil, on enchaîne, on aura un cycle de réchauffement. Et donc ça, c'est par exemple un tipping point. Le problème, c'est que on ne sait pas quand on va atteindre ces seuils, on ne sait pas quand le moment va arriver. D'où cette métaphore qu'utilise François Gemène pour expliquer cette situation. Il est spécialiste en géopolitique du climat et il est l'auteur de l'excellent Atlas de l'Anthropocène aux éditions Sciences Po. Voici sa métaphore sur les tipping points.
C'est un peu comme si on poussait un immense rocher sur le flanc d'une colline. En montant cette colline, on sait bien qu'à partir du moment où on arrivera au sommet de la colline, le rocher va dévaler l'autre pente sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Mais évidemment, comme le rocher nous obstrue la vue, on ne sait pas exactement à quel moment on va atteindre le sommet de la colline.
Voilà, on ne sait pas, mais si on a choisi l'objectif de moins 2 degrés de réchauffement, c'est parce qu'on se dit en dessous de 2 degrés, normalement, il ne devrait rien se passer. On ne devrait pas atteindre ces seuils de dépassement. Ça, c'était ce qu'on disait au moment de la COP 21 à Paris. Le problème, c'est qu'on en est un petit peu moins sûr aujourd'hui, d'où ces appels de scientifiques qui se disent ben là, on est peut-être à la limite de franchir ces points de basculement.
Mais Anne, comment on fait pour rester optimiste?
Alors, c'est la question effectivement que j'ai posée à François Gémen, et lui pense, enfin, il est plus optimiste qu'il y a un an, parce qu'il se dit qu'il y a quand même une prise de conscience dans la population, notamment dans les jeunes générations, une prise de conscience citoyenne sur les enjeux climatiques.
Mais attendez, les prises de conscience, si on a Donald Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, on a beau prendre conscience, nous, à notre échelle, on va avoir du mal. Hein.
Et ben c'est peut-être justement un tipping point social. C'est-à-dire que là, il se passe des choses du côté des citoyens. Peut-être que les citoyens ont un temps d'avance, et notamment les jeunes générations ont un temps d'avance sur le système politique et le système économique. Mais peut-être qu'à un moment, justement, il y aura ce basculement social qui fait que par les urnes, en fait, on pourra enchaîner toute une série de transformations qui pourront durablement impacter le climat.
Bravo en tout cas, Anne Le Gall. Votre chronique aura-t-elle fait mouche auprès de nos auditeurs? Et surtout, la trompette de notre invité Ibrahimov fera-t-elle? Ou plutôt, réponse peu avant 18h. À suivre la semaine prochaine, une nouvelle cérémonie va voir le jour. Les Olympia Awards, qui comme son nom l'indique vont récompenser à l'Olympia les artistes ayant embrasé les planches de cette salle parisienne mythique, sur laquelle on peut toujours lire le nom de son fondateur, le légendaire Bruno Cocatrix. Mais qui était Bruno Cocatrix? Retour sur un homme et une époque fabuleuse avec notre expert musique Thierry Geffrotin. Oui Thierry, vous vouliez dire quelque chose rapidement, hein, parce que là il faut lancer la musique.
Tu connais l'histoire du paysan qui vient voir Bruno Cocatrix?
Oui, merde. Bon alors vite Thierry, vite.
C'est un gars qui va voir Bruno Cocatrix avec son cochon. Il dit écoutez voilà, j'ai un petit numéro avec mon cochon, je fais des additions et il donne le résultat. 6 et 3. Et il tire sur la queue du cochon. 9, 9, 9. Oui, bah, dit Cocatrix, j'ai bien compris. Enfin, j'ai vu, ouais, non, attendez. Il lui tape sur la tête, 4 et 4. 8.
Sacré Thierry Geffrotin. Vous pouvez partir sur une radio concurrente. On va apprendre à mieux connaître Bruno Cocatrix juste après. La couleur de l'amour nage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures de détente pour vous, un peu moins pour moi qui dois gérer les journalistes de la rédaction d'Europe 1. Vous vous souvenez du film Vol au-dessus d'un nid de coucou? C'est mon quotidien.
Oh non.
Oh oui, entre une co-animatrice érotomane qui ne pense qu'à une chose, pécho l'invité.
Ah ouais.
Une babacoule décroissante qui parle aux insectes.
Ils font à la fois crrr crrr et bzzz.
Et un féru de Wagner qui se parle à lui-même.
Calmez-vous.
Je peux vous dire que mes après-midi ne sont pas de tout repos. Heureusement, vous êtes là, Ibrahim Malouf, avec un nouvel album. Sens. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous débutez l'écriture de ce nouvel album? C'est quoi le déclencheur pour chaque nouvel album?
Comme d'habitude, quand je travaille sur des compos, j'improvise, j'invente des choses tout seul quand je suis chez moi ou avec des potes musiciens quand on est ensemble en studio. Et ça part d'impro, ça part d'idées improvisées. Et après, plusieurs jours après, tac, il y a la mélodie que j'avais faite en impro il y a 2 semaines ou il y a 10 jours qui me revient en tête alors qu'il n'y avait rien qui l'appelait particulièrement. Et je me dis, tiens, c'est marrant que je m'en souvienne encore et je vais la rebosser. Et puis je finis par aller en studio, puis les rebosser avec les musiciens.
Chose incroyable quand on connaît votre don pour cet instrument. Il paraît que ça n'a pas été évident tout de suite, la trompette, que ça vous a valu quelques migraines au début.
J'en ai toujours.
C'est vrai?
Mais en fait, c'est un instrument qui est un peu particulier parce que...
En quoi?
D'abord, il est très éprouvant physiquement. Il y a quelques instruments comme ça qui sont éprouvants, mais celui-ci particulièrement, d'abord parce que ça, c'est physique, donc... Donc ça, je sais pas si vous voyez, mais mes lèvres sont un peu défoncées quand même. Hein. Je sais pas si
vous devez mettre beaucoup de labello.
J'ai des cicatrices, des bleus, ouais. Et tout. Bon, alors ça c'est un aspect. C'est comme les boxeurs, ils se prennent des coups, puis voilà, et on accepte. Donc c'est pas très très beau, mais c'est comme ça. Mais et surtout ça impacte le battement cardiaque. Donc quand tu fais 2 heures de concert ou pendant 2 heures tu fais de l'hyperventilation, de l'apnée, du machin pendant non-stop, ouais. Pendant 2 heures, où t'as jamais un moment où tu respires normalement. Et t'es sous pression, il y a un moment où tu sors de concert, t'es pas bien.
C'est pas bon pour la santé, la trompette.
Moi je crois, il y a beaucoup de trompettistes qui ont développé des arythmies cardiaques, donc je pense que.
Donc vous êtes suivi? Faites attention.
Non.
Ah, il faudrait.
Mais il faudrait. Ouais. Je suis pas très. Comment on dit Je suis pas hypochondriaque.
Hypochondriaque. Ah.
Mais alors, pardon, Ibrahim, vous dites ça, mais en plus, quand on vous voit sur scène, où vous sautez dans tous les sens, où vous occupez la scène, j'imagine que c'est double peine, là. C'est à la fois. le côté physique de la trompette, mais aussi le fait d'être un showman.
Je crois qu'il y a l'adrénaline et l'amour de la scène qui font que ça couvre largement toutes les, les éventuelles... Mais ça m'est arrivé deux ou trois fois en 20 ans de scène, de faire des petits malaises sur scène, mais ça se voit pas, les gens le voient pas, et heureusement d'ailleurs, sinon ça casse un peu la magie. Mais du coup, je fais un peu attention.
Vous perdez combien de kilos à la fin de chaque concert?
Mais surtout, je me suis rendu compte que j'ai pas faim, alors que donc je mange pas avant les concerts pour pouvoir être en forme. Et après le concert, j'ai tellement soufflé, tellement été fatigué que j'ai même plus faim. Je peux même plus rien manger.
C'est le régime idéal, Eva.
Oui. Pourquoi?
Non, je vous regarde, je pense à moi, je ne me permettrai pas. Mais vous me prenez,
pour
un goujat, mais pas du tout. Mais enfin, d'accord. Eva, vous êtes fine comme un roseau.
Ouais, c'est ça.
Son 11e album est sorti. Ibrahim Malouf est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Après les Césars, les Victoires et les Molières, voici une nouvelle cérémonie. La semaine prochaine auront lieu à l'Olympia les Olympia Awards qui récompensent les artistes s'étant produits dans cette salle mythique. Ce sera l'occasion pour Thierry Geffrotin de vous parler de Bruno Cocatrix, patron historique de l'Olympia, et aussi de sortir son nouveau smoking en alpaga. La dernière fois aux Oscars, Thierry avait dû improviser.
C'est que les Oscars, t'es obligé de t'habiller beau, quoi. Donc j'avais acheté chez Célio un smock.
Wow,
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Se chamailler, parfois même se castagner, c'est le quotidien désormais des journalistes d'Europe 1 qui chaque après-midi sont en compétition pour une couronne objectivement toute pourrie, mais symboliquement très importante. Celle de meilleur chroniqueur du jour. Qui s'en coiffera aujourd'hui? Vous votez via Twitter pour votre journaliste préféré, sachant que la voix de notre invité d'honneur comptera triple. Cet après-midi, c'est Ibrahim Malouf qui nous accompagne. Ibrahim Malouf, vous êtes trompettiste, vous êtes réputé pour cet instrument, mais c'est vrai que vos influences musicales, vos sources d'inspiration sont tellement vastes qu'on ne peut pas vous mettre dans une catégorie. C'est vraiment impossible. C'est-à-dire qu'Eva, avant l'émission, me disait en off, attention, Ibrahim Malouf, c'est pas que du jazz, parce que moi j'avais écrit à certains endroits du jazz. Alors c'est vrai que vous êtes très fort en jazz, mais cet album, par exemple, on peut pas le mettre dans une case. À la FNAC, si on allait encore acheter des albums à la FNAC, est-ce qu'on le mettrait dans quel bac on le mettrait?
Déjà, merci Eva. Parce que j'apprécie, c'est vrai que mais j'ai pas non plus honte d'être classé dans le jazz, parce que je trouve que le jazz, c'est d'abord, c'est classe, c'est peut-être un peu niche, mais ça reste quand même plutôt apprécié, donc plutôt jazz, dans les rayons c'est plutôt dans le jazz. En fait, j'ai pas de problème avec les étiquettes, un peu comme quand tu vas dans un resto pour manger une pizza, tu vas pas aller dans un magasin de sushi, tu dis bon bah je vais manger une pizza dans une pizzeria. Donc j'ai pas trop de problème avec ça. Mais par contre, c'est vrai que pour définir la musique en soi et dire c'est du jazz parce que c'est dans le rayon jazz, là il y a une erreur peut-être.
Le 14 et 15 décembre prochain, vous serez à la scène musicale pour un spectacle intitulé Kaltoum. Alors dans l'équipe sauvage, on adore accroître notre culture générale. Vous nous racontez brièvement qui est Kaltoum?
C'est Oum Kulthoum, mais bon, on dit Kaltoum.
Oum
Kulthoum, voilà, qui était une des, enfin peut-être la grande voix de tout le monde arabe. Voilà.
Et c'est un hommage que vous lui rendez. Vous reprenez ces titres?
J'ai fait un album qui s'appelle Kaltoum en hommage à Oum Kulthoum, où j'ai repris, donc ça c'est en 2015 que j'ai sorti ça, où je reprenais donc un de ses plus grands tubes qui s'appelle Alf Layla Olayla, qui veut dire Les Mille et Une Nuits. Et donc moi j'en ai fait une sorte de suite jazz new-yorkaise. Et donc en fait, c'est là où c'est un peu fou, c'est que la musique arabe et la musique américaine et le jazz ont exactement la même source, l'Afrique. Et donc, j'ai fait se rejoindre deux cultures qui paraissent aujourd'hui, surtout à notre époque, un peu antinomiques, en tout cas qui n'ont pas l'air de partager beaucoup de choses, c'est-à-dire la culture arabe et la culture américaine. Et j'en fais une seule, comme un petit moment de musique qui réunit tout le monde.
Face à vous, Ibrahim Malouf, sa voix est à l'Occident ce que celle d'Oum Kulthoum est à l'Orient.
Someday my prince will come.
Un absolu, indépassable. Thierry Geffrotin est notre deuxième compétiteur du jour. Il aura fort à faire pour battre sa redoutable rivale Anne Le Gall, une journaliste qui a beaucoup trop d'atouts pour que la compétition soit fair play, il faut le dire, comme avait pu le constater Anissé Mbida, notre journaliste high-tech, le jour de l'émission avec Patrick Peloux.
Anissé, Axel, Nicolas, bah parfait. Anne. Mais elle est où, Anne?
Jeanne, elle a un charme fou à chaque fois.
Ah ouais.
On est cuit, là.
On est cuit quand Anne est là. Allez Thierry, ne partez pas battu malgré les charmes de votre rival. Vous nous parlez d'une nouvelle cérémonie qui aura lieu la semaine prochaine, les Olympia Awards.
Et je vais surtout vous parler de Bruno Cocatrix, puisque cette cérémonie aura donc lieu à l'Olympia. Bruno Cocatrix, évidemment, son nom est associé à cette salle mythique, mais il a eu une carrière très complète avant même d'être le patron de l'Olympia. Il a été directeur de cabaret, producteur de spectacles, compositeur de chansons, d'opérettes d'ailleurs, parce que les opérettes à l'époque, ça plaisait beaucoup, impresario. Il est finalement, en 1952, il est directeur d'un théâtre, la Comédie Comartin, à quelques dizaines de mètres de l'Olympia, et on lui propose de prendre en main l'Olympia. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est un cinéma en piteux état. Pendant 2 ans, ça reste un cinéma.
Ça s'appelle déjà l'Olympia.
Ouais. On y présente aussi des opérettes. Ça s'appelait encore, et particulièrement à Cocatrix. Mais son rêve, c'est de monter un vrai music hall. Et une date très importante, c'est le 5 février 1954. C'est une date historique. L'affiche du tout premier spectacle qui présente en vedette, tenez-vous bien, Lucienne Delisle. À l'époque, ça ne faisait pas rire du tout.
Je ne ris pas.
Et en première partie, un inconnu, Gilbert Bécaud, qui chante 3 chansons. Et le succès de cette nouvelle formule est immédiat.
Mais c'est quoi la recette de ce succès?
Alors, la recette, c'est très calibré. C'est 3 heures de spectacle avec des vedettes anglaises qui chantent 4-5 chansons, des vedettes américaines qui terminent la première partie, et enfin, la tête d'affiche. Et au milieu...
Thierry, c'est à l'Olympia que c'est créé ce système-là?
C'est Cocatrix qui crée en
vedette américaine.
Je peux même vous dire que le mot musical est un mot qui a été inventé par les Français.
D'accord. Voilà. Ah, bon.
Les Américains nous ont tout pris. Donc, des chanteurs, et au milieu, il y avait des attractions, des humoristes, des magiciens, et tout ça, ça a duré pendant 25 ans, jusqu'au moment où les artistes, les stars, les rock stars ont dit non, on veut être tout seul, pas de première partie, voilà. Mais ça a duré quand même 25 ans tout ça. Hein. Pour la petite histoire, par exemple, en 1964, les Beatles, ils sont à l'Olympia, on a une archive européenne formidable là-dessus, et ils sont avec Trini Lopez, et Sylvie Vartan, il y avait aussi un magicien, Pierre Vassilou, enfin voilà.
On a oublié Pierre Vassilou, Sylvie Vartan et les Beatles, c'était vraiment un triptyque inattendu.
Et en 1966, Jimi Hendrix est passé à l'Olympia et il était en première partie de Johnny Hallyday.
Jimi Hendrix en première partie de Johnny Hallyday.
C'est pas rien.
Je me trompe, Thierry, ou Europe 1 a largement contribué au succès de l'Olympia. Est-ce que c'est le moment où on peut s'envoyer un peu des fleurs?
Je pense que vous avez raison, Mathieu. On peut s'envoyer des fleurs parce que le soutien d'Europe 1, Europe numéro 1, comme on disait à l'époque, a été fondamental. La radio se servait de l'Olympia comme d'un studio d'enregistrement. On enregistrait des concerts de jazz, des émissions de variété, notamment les fameux Musicorama, qui étaient diffusés ensuite sur l'antenne d'Europe 1. Les enregistrements avaient lieu les jours de relâche et jusqu'en 1974, tout le monde artistique est passé par l'Olympia. C'est-à-dire Oum Kalthoum, que vous parliez à l'instant, Ibrahim. Les 2 seuls concerts qu'elle a donnés en dehors du bassin méditerranéen, c'était en Europe et c'était à Paris. Les Stones, Dalida, Count Basie, Serge Lama, Bob Dylan, Sardou. Enfin, je pourrais pendant des heures et des heures. C'est là que Jacques Brel a fait ses adieux en 1966. Et Ibrahim Malouf, qui a fait 3 Olympias, je ne me trompe pas, en septembre dernier.
C'est ça. Et je peux rajouter une petite information
sur
ça.
Ouais.
C'est que c'était... très prestigieux aussi d'être programmé à l'Olympia. C'était une programmation comme tu es programmé dans des gros festivals. Aujourd'hui, l'Olympia a changé un peu son système. Maintenant, tu le loues.
Oui.
Mais la réputation de la salle est tellement dingue.
Tout le monde fait l'Olympia.
Tout le monde a envie de faire l'Olympia.
À l'époque, c'était 2 ou 3 mois quand on était à l'affiche de l'Olympia. C'était
donc
pas une soirée.
Il fallait être une énorme star pour faire l'Olympia.
C'était une énorme star. Ouais. Alors, je vous disais qu'Olympia a été soutenu par Europe 1. Écoutez cet archive. C'est un reporter d'Europe 1 qui est là. On est en 1957.
Je suis actuellement à l'Olympia, dans le hall du Music Hall de l'Olympia, et il y a là une équipe de démolisseurs qui s'attaquent aux colonnes de l'Olympia. Monsieur Bruno Cocatrix, vous êtes là maintenant, vous allez nous expliquer exactement quel est le but de cette opération démolition.
L'Olympia avait fait son temps, je crois, et il fallait faire une nouvelle salle.
Et comment voyez-vous cette nouvelle salle de l'Olympia?
Merveilleuse. Elle sera bleue et rouge.
Plus grande que celle-ci.
Aux couleurs de Paris, je
pense que c'est un peu plus grande.
Ouais, merci au service documentation et archives d'Europe 1, on y est. Il y avait bien d'autres artistes qui cassaient l'Olympia ce jour-là, mais l'Olympia toujours debout aujourd'hui, la preuve, mercredi prochain, la salle mythique accueillera donc les Olympia Awards.
Eva, alors je précise qu'il y a quelques catégories, donc on vote pour les musiciens et pour les humoristes de l'année. Vous pouvez voter, vous allez sur le site mycanal.fr et vous participez à ce vote puisque c'est le vote des internets.
Merci beaucoup Thierry Géfrotin, je crois qu'on ne peut que saluer la qualité de la chronique, c'est pourquoi je ne relèverai pas la pique perfide de votre concurrente Anne qui m'a glissé à l'oreille qu'on ne donnait pas cher de votre peau
au moment de la canicule,
au moment du vote final, au moment du vote final. Anne, enfin un peu de respect quand même, on n'attaque pas sur l'âge. Bref, bonne ambiance. Ibrahim Malouf reste avec nous.
Europe 1.
Et vous n'allez pas regretter d'être resté car vous allez bientôt affronter Eva dans une épreuve redoutable, celle du quiz. Et si, ma chère Eva, je vous dis qu'histoire de vous favoriser, ce quiz va porter aujourd'hui sur la trompette,
oh non,
je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, comme Philippe Croizon à l'issue d'une chronique qui ne lui avait pas plu,
je vais t'étrangler même si j'ai pas de main.
Pas tout de suite.
Non.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Chaque fin d'après-midi, nous galopons ensemble sur les plaines fertiles du savoir. Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission si feel good que même au cœur d'un bouchon de 14 km, les autres automobilistes vous entendront crier
Yeehaw.
Celle qui en revanche risque de ne pas crier Yeehaw à l'issue de cette séquence, mais plutôt
ah merde.
C'est Eva Rock qui va maintenant affronter notre invité Ibrahim Malouf sur son terrain, puisque oui, le quiz du jour est pernicieusement consacré à l'univers de la trompette. Avis aux âmes sensibles, je ne vous cacherai pas qu'il se peut que ça soit une boucherie façon Game of Thrones. Attention, quiz
vous
trompette.
Vous avez trouvé Game of Thrones en trompette hein.
Je trouve toujours tout ce que je veux sur Internet, car il se trouve toujours des gens assez créatifs pour reprendre n'importe
donc,
quoi à la trompette.
Vous avez tapé dans la barre de recherche Game of Thrones trompette.
Cover, trompette, Game of Thrones. Oui, bien sûr, et on trouve des choses formidables.
Vous êtes un grand malade.
Oui, c'est mon métier.
Moi, ce qui me fait peur, c'est que le quiz trompette, on est quand même perdu la moitié des auditeurs. C'est quand même un peu le truc qui m'inquiète.
Ah non, vous inquiétez pas. Ils sont là pour le quiz trompette de rapidité. Hein, c'est une forme de blind test. Le premier qui a la bonne réponse la donne et marque un point. C'est parti. Pour ce premier extrait, je ne vous demande pas le chanteur, mais le titre de la chanson. C'est parti.
Ah oui, Michael Jackson. Beat it.
Ibrahim Malouf, quelle classe. Alors Ibrahim Malouf offre ses points visiblement.
J'avais trouvé Michael Jackson mais j'arrivais pas à me souvenir.
Oui, même avec les grands signes que vous faisiez Ibrahim, vous avez eu du mal à trouver Beat It de Michael Jackson, effectivement. Alors maintenant je veux le chanteur et le titre.
Ça je sais pas.
Si, vous connaissez.
Alors, ça veut dire que
c'est George Michael.
Oui, et le titre. Là, on perd les auditeurs. Dépêchez-vous.
Oui,
là,
ouais, mais
non, c'est même pas une trompette.
Mais
hein,
non,
c'est sur un synthé. Il y a une touche.
Non, mais là, ça, je connais pas, moi.
Comment elle s'appelle la chanson?
Enfin, je connais la chanson comme ça, mais je l'ai jamais vraiment écoutée.
Si, vous la connaissez très bien.
George Michael, Careless Whisper.
Voilà. Ah, mais j'aurais pas retrouvé le titre.
Vous avez pas la vraie?
Voilà.
On dirait un film érotique des années 60, comme vous dites.
Ah, on dirait ça,
ouais.
Mais c'est quand même George derrière.
Oui,
premier titre en solo de George, et donc je n'aurais pas accepté Wham comme réponse. Donc c'est bien, George Michael. Et ben, on vous donne un demi-point. On change d'ambiance. Qui est la chanteuse et comment s'appelle le titre?
Voyage,
Désirless.
Voyage.
Plus que la trompette, quand on est dans les chansons de l'année 80, là, Eva marque des points.
Où on peut trouver ce genre de version?
Mais vous savez, Ibrahim, tout est possible sur un. Si vous sortez de votre studio et de votre entourage de musiciens prestigieux et de qualité, sur Internet, il y a plein de losers qui font des vidéos de trompettes pourries. Voyez, c'est tout un univers que je vous invite à découvrir. Wow. C'était effectivement Voyage de Désirless, version trompette. Une nouvelle chanson à trouver. Le titre.
Ah oui, c'est pas David Guetta, ça hein.
Non, c'est pas
non,
David
c'est
Guetta.
Dan...
Ah, c'est Daft Punk.
Oui, mais quel est le titre?
Ah oui, c'est... Can't Get Enough. Non, c'est pas ça.
Ah, c'est pas loin.
Lucky.
Get Lucky. Bonne réponse, Get Lucky. Les Daft Punk, mais aussi Pharrell Williams. On est fait Turing,
Nile Rodgers.
Non, il faut pas.
Enfin, attention, cette chanson va vous départager. Qui est le chanteur?
Ah oui. C'est Ed Sheeran.
Bonne réponse.
Je suis super fort.
Effectivement. Est-ce qu'il y a une des trompettes qu'on a entendues qui était d'un niveau correct ou est-ce qu'ils étaient vraiment tous nuls à la trompette, ce qu'on a entendu?
Ils étaient pas nuls parce qu'on reconnaît la mélodie et à la trompette c'est déjà énorme.
Ah oui, c'est déjà beau. Voilà. Vous êtes sympa, Ibrahim Malouf.
Après, c'est pas non plus des très très grands trompettes, mais on va pas passer.
C'est Ibrahim Malouf qui remporte le quiz trompette. Comme c'est étonnant.
Oh.
Europe 1.
À suivre, c'est une nouvelle cérémonie qui s'annonce la semaine prochaine, les Olympia Awards, cérémonie qui récompense les meilleurs artistes étant produits à l'Olympia. Parmi eux, François-Xavier Demaison, bien placé pour l'emporter dans la catégorie meilleur humoriste, même si c'est une catégorie très disputée, la concurrence est rude. Démonstration Eva.
Qu'est-ce qui est vert et qui descend de la montagne? Un ski, oui.
François-Xavier Demaison sera-t-il la première dauphine d'Eva Rock aux Olympia Awards? On sera en ligne avec lui juste après Bruno Mars, Locked Out of Heaven sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Gardez un œil sur les nouveautés, c'est aussi la mission de l'équipe sauvage. Or, mon cher Ibrahim Malouf, après les victoires de la musique, les victoires du jazz et celles du classique, je vous présente une nouvelle cérémonie, celle récompensant les artistes étant produits à l'Olympia. La première édition des Olympia Awards aura lieu la semaine prochaine, le 11 décembre. Cérémonie qui sera présentée par Antoine Decaune avec plusieurs catégories, dont humoriste de l'année. Nous sommes justement en ligne avec un des heureux nommés. C'est un comédien qu'on adore ici, mais avec qui on joue de malchance puisqu'il est le seul artiste à être venu dans notre émission et l'émission n'a pas été diffusée. Oui, c'était en octobre dernier. On venait de finir l'enregistrement. Paf, Chirac meurt. Foutu gâchis. Bonjour François-Xavier de Maison.
Bonjour, comment ça va?
Bah ça va pas mal, mieux que la dernière fois, on n'avait pas eu de chance.
C'est vrai,
hein.
je me souviens bien, on s'était bien amusé d'ailleurs. Bah
oui, alors je sais que vous regrettez que notre émission n'ait pas été diffusée, comme vous regrettez d'ailleurs l'absence de la catégorie meilleur intervieweur de l'année dans cette cérémonie, où j'aurais clairement eu mes chances, souvenez-vous. Vous avez déjà 3 enfants si je ne m'abuse, c'est ça?
Non, j'en ai qu'une seule.
Bref, mon cher François-Xavier, la semaine prochaine, le suspense est quasi nul, la victoire c'est pour vous, c'est vous le meilleur humoriste, tout simplement, point barre, pourquoi faire cette cérémonie?
Non, honnêtement, je pense que face aux jeunes et à leur communauté de millions de followers, j'ai quand même assez peu de chance. Hein. Je pense que face à des gens comme Kev Adams, qui a 5 millions de Farid, ouais, ou Camille Lelouch, c'est des millions de followers tout ça. Hein. Mais bon, je suis quand même très flatté d'être nommé. Ça me fait très plaisir et puis je vais y aller avec plaisir pour passer une bonne soirée. Voilà.
Cette salle de l'Olympia, vous la connaissez, vous y avez joué.
Ah, j'adore.
Et est-ce qu'elle a vraiment quelque chose? Nous, on est jamais passé à l'Olympia. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour un artiste, cette salle?
Ben écoutez, mis à part le fait d'aller aux toilettes dans les mêmes chiottes qu'Edith Piaf, effectivement, il y a quelque chose un rapport scène-salle assez exceptionnel au niveau du son. Voilà, une présence comme ça du public avec vous qui est extraordinaire. C'est vrai que ce dernier spectacle, je l'ai joué 12 fois à l'Olympia. Et ça a été un vrai, vrai bonheur. Quoi. Le premier soir, on a vraiment le trac, on se dit c'est l'Olympia. Et puis le deuxième soir, vous vous sentez déjà un peu chez vous. Et quand, à la fin de la série, vous ne pouvez plus partir. Quoi. On est obligé de vous envoyer le vigile.
Pour vous dégager. François-Xavier Demion, je crois savoir que vous remontez sur les planches au mois de février. Mais là, vous n'êtes pas seul en scène. Hein. C'est une pièce,
exactement,
nez à nez avec François Berléand. Vous êtes prêt, là? Vous connaissez votre texte ou il y a encore...
Écoutez, je suis en train de travailler. Voilà.
Ah oui, voilà. Ah bah, travaillez bien alors, François-Xavier. Soyez prêt pour février. Donc, merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Je rappelle, un vrai plaisir.
Je rappelle que vous êtes nommé dans la catégorie spectacle d'humour de l'année aux Olympia Awards.
Et François-Xavier de Maison l'a bien précisé, c'est à vous de voter pour vos artistes et vos spectacles préférés. Ça se passe sur le site mycanal.fr. Quelques clics et puis c'est dans la boîte. Et puis pendant la cérémonie mercredi soir qui sera diffusée sur C8, vous pourrez également élire le concert de l'année.
Un petit bisou à Ibrahim Malouf qui est notre invité aujourd'hui. Ah, François-Xavier de Maison.
Salut.
Que j'adore.
Comment vas-tu?
Bonjour, ça va bien.
Quel lien tu entretiens du coup avec Chirac?
Ça
se passe bien.
C'est une nostalgie teintée d'amertume.
Ah oui. Voilà. On le dira comme ça, c'est un bel euphémisme. Merci François-Xavier de Maison d'avoir été avec nous.
À bientôt les amis.
Bonne journée.
Salut. Europe 1.
Alors que nous allons bientôt siffler la mi-temps de ce match éprouvant entre les meilleurs journalistes d'Europe 1, cette Ligue des champions sans champions, j'aimerais qu'Eva Rock s'engage devant vous, chers auditeurs, et aussi devant Ibrahim Malouf, l'un des plus grands musiciens français, à renoncer à la pratique de tout instrument à vent, quel qu'il soit. Je dis bien quel qu'il soit, parce que je n'ai pas osé vous le dire sur le moment la dernière fois que justement je vous avais convié à une soirée Ligue des champions à la maison, mais c'est vraiment très très dur de se concentrer sur le match quand vous vous postez à côté de l'écran et pour nous montrer vos progrès au Vuvuzela. Signez-la, Eva, s'il vous plaît, plus d'instruments avant, jamais, Paris, le 5 décembre 2019. Merci.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous aimez la trompette et vous aimez les rythmes latins? Mais vous estimez comme moi que le son intitulé Trompette Latino dans la sonothèque d'Europe 1 ne rend pas justice à ce que peut donner un vrai trompettiste sur un vrai rythme latino? Alors découvrez vite le nouvel album de notre invité, Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf, on continue de se balader dans votre univers musical. Mais vous le savez, la compétition est terrible, elle doit continuer. Deux nouveaux compétiteurs s'échauffent. Avec eux, loin des inégalités hommes-femmes du football, on va voir que le handball est peut-être le sport le plus exemplaire en matière de parité. Et puis on se posera aussi la question de savoir si le règne du politiquement correct ne va pas finir par tuer James Bond. Attention Ibrahim, n'oubliez jamais que votre voix compte triple. Nos deux journalistes vont donc tenter de vous séduire, parfois en usant de très grosses ficelles, comme notre expert écho Axel de Tarlé hier face au compositeur Alex Jaffray.
Parce que vous devez voter pour le meilleur, alors.
Moi, cela dit, j'ai un prénom proche du vôtre.
Déjà le vouvoiement, tu sais, la veulerie, mais bien sûr.
Eh hey, mon poteau, on s'appelle presque pareil.
J'aime pas les gens de gauche, salut.
Tu vas être servi, moi je suis bien à droite. Hein.
Ah.
Et oui, ici, l'éthique journalistique n'est pas en vain mot. Mais voilà qu'il est déjà 17h, Eva.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
La puissance comique d'un film de De Funès. L'esprit compétitif de De Funès.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais.
Et la délicatesse d'Ibrahim Malouf. Voici le cocktail de ce 73e numéro de l'équipe sauvage, l'émission qui chatouille vos zygomatiques sans négliger vos neurones et où les journalistes de la rédaction se surpassent chaque soir au service de votre culture G. Deux nouveaux prétendants au titre de chroniqueur du jour viennent de nous rejoindre en studio. À ma gauche, il a longtemps été hétérosexuel. À Malakoff, son fief, une statistique veut même qu'un tiers des femmes résidentes dans la commune ait un jour croisé sa route, comme on dit pudiquement. Mais ça, c'était avant. Avant que Jean-Philippe Ballas ne rencontre Shuriken du groupe IAM et que Shuriken ne plante son regard dans celui de Jean-Philippe en lui disant
« Bonjour Jean-Philippe. »
Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avouez que ça vous a fait quelque chose.
Il s'est passé un truc.
Ouais. Aujourd'hui, pour vous remettre de vos émotions et retrouver le chemin de la virilité, et à l'occasion de la mise en production d'une voiture un peu particulière, vous nous parlez de James Bond.
On va faire un tour en Aston Martin, la vraie de James Bond, avec un gros moteur. Je sais qu'à l'heure du dérèglement climatique, c'est pas très politiquement
correct.
J'espère
que vous n'avez pas croisé Anne Le Gall, hein, parce qu'elle va pas être contente.
En tout cas, j'ai tous les gadgets, les vrais gadgets. Je vous raconterai tout ça.
Il a tous les gadgets. À ses côtés, Ibrahim Malouf, un être vil et moqueur qui est pour beaucoup dans la propagation de la rumeur selon laquelle Ballas aurait, je cite, retourné sa jaquette. C'est lui qui, depuis mardi, à la machine à café, évoque ce qu'il n'a pas peur d'appeler le coup de foudre entre Ballas et Shuriken.
Rugueuse rencontre.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes notre expert sport et aujourd'hui vous nous parlez d'un sport qui devrait être un modèle pour tous les sports et peut-être même pour la société en général.
Je vous parle de la quintessence de l'égalité homme-femme. Vous connaissez nos équipes de France de handball, garçons multiples champions du monde, championnat et les filles qui défendent en ce moment leur titre mondial au Japon, championne du monde en titre, championne d'Europe en titre. Et bien tous ces résultats, c'est notamment, mais quand même en grande partie, grâce à la Fédération française de handball qui érige en principe régalien l'égalité femme-homme.
Salarial aussi. Ah!
Mais c'est pas encore ça.
Salarial, c'est délicat à dire parce que, en termes de fédération, c'est plutôt des primes.
D'accord. Vous nous raconterez tout ça. Voici le programme de la deuxième heure. Qui sera élu chroniqueur du jour? Nous le saurons juste avant 18h. Mais pour l'instant, profitons de notre invité. Et quel invité? Ibrahim Malouf, nouvel album, le 11e. Sens. Qui est pour vous, Ibrahim Malouf? Eh ben, on est allé vous poser la question.
Ibrahim Malouf.
Oui, Ibrahim Malouf, c'est le trompettiste.
Ah mais oui, bien sûr, on ne connaît que lui. Bah,
non, mais
j'ai
entendu sur Europe 1 plusieurs fois.
Oui. Ibrahim Malouf, il est beau, c'est un bel homme, très talentueux.
Malouf, c'est un Algérien, je crois, ou un Marocain, quelque chose comme ça. Libani, hein.
Je dirais qu'il ressemble à un présentateur de Canal+, surtout.
J'ai dit Malou, et bah alors c'est Malouf, bah oui.
Je crois qu'il lui ressemble beaucoup à Mouloud Achour, non?
En fait, il a inventé, ou c'est son père qui a inventé un instrument.
De toute façon, moi c'est le violon qui m'intéresse.
Il décrit des images à travers sa musique, je trouve.
C'est un gilet jaune?
Et on peut voyager à travers les notes qu'il utilise et le son de son instrument également.
Parce que j'ai une passion pour le violon.
Ibrahim Malouf, vous n'êtes pas un gilet jaune, du moins que je sache. Hein. Il y avait une dame très bien informée qui sait que c'est votre père qui a inventé un type de trompette particulier. Quart de ton, c'est ça?
Oui, c'est une trompette. Mon père, quand il est arrivé en France pour étudier la trompette, il avait une vingtaine d'années. Il était paysan dans la montagne libanaise, mais son rêve, c'était de jouer de la trompette. Et il voulait aussi jouer la musique arabe à la trompette. Sauf que sur une trompette normale, c'est pas possible. Et donc, au bout de quelques années...
Il a customisé la trompette.
Exactement. Il a rajouté un piston sur une trompette normale, qui en général en a trois. Du coup, la trompette que je joue et celle qu'il a inventée en a quatre. Et ça permet de jouer les musiques venues d'Orient.
On parlait hors antenne, on révèle tout à nos auditeurs, de Miles Davis, une figure du jazz évidemment. Miles Davis disait « Je fais peut-être plein de choses, mais la chose essentielle que j'aime, qui arrive avant tout le reste, même avant de respirer, c'est la musique, c'est tout, rien d'autre. J'achète des Ferrari, ouais, mais la musique est toujours là. » Est-ce que vous aussi, Ibrahim Malouf, vous achetez des Ferrari, mais la musique reste plus importante?
Mon Dieu.
Il était ultra provocateur.
Bien sûr.
C'est une époque aussi, hein. Ouais. Je pense qu'on pouvait se permettre ce genre de blagues. Je crois qu'aujourd'hui, ce serait très mal vu, mais... Enfin, la musique, oui, c'est sûr que moi, je respire musique aussi, et j'ai grandi dans une famille de musiciens, donc ma langue maternelle, c'est la musique.
Il n'y a jamais une question, vous n'avez jamais posé de question. Ce que je fais dans la vie, c'est forcément la musique.
Ah non, le fait de faire de la musique dans ma vie, ça ne s'est jamais posé et ça ne se posera jamais. Mais que ce soit mon métier, ah si, bien sûr, moi je voulais être architecte quand j'étais plus jeune. Et jusqu'au bac, j'étais parti pour faire des études de maths.
Vous avez fait un bac S ?
C'est ça, et spé maths, vraiment, donc j'étais vraiment passionné par ça. Et je voulais en fait être architecte, mais je me disais il faut vraiment que je développe encore plus les maths pour être un bon architecte, très technicien, etc. Donc j'étais vraiment parti là-dessus. Et finalement, j'ai tenté le concours d'entrée au Conservatoire de Paris parce que mon père me disait mais si tu fais pas un peu de musique dans ta vie, c'est nul quoi, avec tout ce que tu sais faire. Donc j'ai tenté le concours et je suis rentré au Conservatoire. Voilà.
Vous avez découvert, vous étiez un génie. Et donc tout s'est enchaîné finalement assez facilement. C'est une sorte de Miles Davis qui ne se serait pas laissé distraire par les Ferrari pour se concentrer sur sa musique. Ibrahim Malouf passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, c'est une icône du cinéma qui pourrait être une victime collatérale du politiquement correct. À l'occasion de la présentation de la bande-annonce du nouveau James Bond. Ça c'est évidemment facile de trouver le thème de James Bond à la trompette, et c'est pas un miracle. Hein. Et à l'occasion de la sortie d'une réédition de l'Aston Martin DB5 de Goldfinger, Jean-Philippe Ballas ose poser la question, homme blanc, alcool, joli pépé comme on disait sous Félix Faure, l'avenir de 007 tel qu'on le connaît est-il menacé? Enfin nous en France, on s'en fout, en matière d'agents secrets et de bagnole, on a ce qu'il faut.
Vous voyez l'automobile derrière moi? Ça fait un petit moment que je l'observe.
Eh bien?
Eh bien, elle est absolument impeccable. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Une couronne en plastique, quatre journalistes en carton. C'est l'équation qui vous garantit chaque soir de rentrer chez vous avec le sourire et plus savant que la veille, grâce à notre grande battle journalistique. Sous les yeux d'un invité d'honneur, aujourd'hui, le trompettiste Ibrahim Malouf nous accompagne. Son dernier album Sens est disponible. Parfois, on a envie de s'arrêter puis juste d'écouter l'album. En fait. Vous en êtes fier de cet album, Ibrahim? J'ai trouvé magnifique. Après, ce n'est que mon modeste avis, mais
c'est pas mon style d'être fier. De...
Vous pouvez pas le dire. Vous pouvez pas. C'est pas vous de le dire.
Je peux être fier, mais je suis. Enfin, j'ai l'impression que, en tout cas, non, un truc que je peux vous dire parce que c'est vrai que je le dis jamais. C'est la première fois que quand je sors un album, les gens me disent c'est votre meilleur album. C'est la première fois. Ouais. J'ai souvent des bons commentaires puis des mauvais, je suis honnête, il y a des gens qui me disent ah j'aime pas, d'autres qui me disent j'aime, etc. Mais celui-ci à chaque fois on me dit c'est votre meilleur album, c'est votre meilleur album, donc je suis touché en tout cas par ce que les gens me disent et donc j'espère que c'est vrai, enfin je sais pas.
Oh, Eva dit toujours la vérité.
Non mais c'est parce que j'ai retrouvé une phrase de Miles Davis qui disait la vérité apparaît quand le musicien trouve son propre son, et je me suis dit qu'avec cet album vous l'aviez vraiment trouvé votre son, même s'il était très identifiable et qu'avant quand après, on vous entendait on savait que c'était vous, mais je trouve
qu'on fasse gaffe avec ce que dit Miles quand même.
Oui, d'accord.
Il en a dit des conneries, Miles.
Hein.
On l'a vu. Hein.
Mais je sais pas, à chaque nouvel album, c'est donc le 11e album studio, et j'ai fait aussi d'autres albums live, mais à chaque nouvel album studio, j'ai l'impression de me rapprocher de quelque chose qui me ressemble. Après, on se transforme aussi, on n'est pas la même personne. Moi, je ne suis pas la même personne il y a 15 ans et aujourd'hui. Et donc, la recherche ne va pas être exactement la même. Mais c'est vrai que cette quête-là, j'ai l'impression d'être de plus en plus juste dans ma recherche.
On continue de parler de cet album Sens, mais la compétition entre dans une phase tout à fait décisive et aussi cocasse, puisque voici un homme qui roule en Nissan Qashqai et qui va à présent nous parler d'une Aston Martin. Jean-Philippe Ballas, heureusement, est un journaliste aguerri qui sait se projeter dans des situations éloignées de son quotidien. En 2013, il avait même frôlé le prix Albert Londres pour son reportage en immersion dans les soirées Bunga Bunga de Silvio Berlusconi, qu'il avait pris le parti de décrire le plus froidement possible.
Ils se pompent les uns les autres.
Oui, mais le mieux, c'est la gueule de votre femme quand elle a appris ce que vous aviez vraiment fait, alors vous lui avez fait croire que c'était un reportage sur la Villa Médicis.
Ah, on avait bien ri ce jour-là.
Que de souvenirs, on l'embrasse. Bref, ne nous éloignons pas de notre thème aujourd'hui, Jean-Philippe. James Bond serait-il sur la sellette?
Alors, je confesse qu'avec Mathieu Noël, nous partageons le même amour des beaux châssis. Mathieu, hashtag passion automobile, hashtag vroom vroom, hashtag tu t'es vu quand tu pollues. Bon, la seule différence, c'est que moi, effectivement, je roule dans un vieux Qashqai hors d'âge, alors que Mathieu, lui, pas du tout. D'ailleurs...
D'ailleurs, vois pas du tout ce que vous voulez dire, Jean-Philippe Ballas.
J'ai peut-être trouvé votre prochain modèle, Mathieu. Vous avez tous reconnu la musique de James Bond. La bande-annonce du prochain est sortie hier. Mourir peut attendre, c'est le titre, avec Daniel Craig et son fidèle destrier.
Jérôme Lacroix a un message pour les productions de James Bond, les productions de Brocoli. Oui, le titre est pourri.
Toujours un peu les mêmes titres, le même genre de titre.
Oui, c'est vrai.
Demain ne meurt jamais.
Oui.
Ça, c'est la traduction française. Parce que aux États-Unis, c'est quoi le vrai titre
Tomorrow Never Dies, c'était le titre dont vous parlez. Et celui-ci, c'est quoi le titre en anglais? On le sait ou pas?
No Time to Die.
No Time to Die. Ça sonne quand même beaucoup mieux, Jean-Philippe Ballas.
Je peux continuer ma chronique ?
Vous pouvez.
Alors, je vous en parle parce que dans ce film, il y a le fidèle destrier de James Bond. C'est son Aston Martin DB5. La seule, la vraie, celle des années 60, celle de Sean Connery, celle de Goldfinger. Et cette DB5 de Goldfinger, bien Aston Martin a décidé de la reproduire en vrai, le modèle mythique à l'identique, c'est-à-dire avec les gadgets de James Bond.
Oui,
une voiture pour vous et moi. Enfin, ici en l'occurrence, pour vous et moi, c'est plutôt une expression. La production a commencé il y a quelques jours dans l'usine de Newport Pagnell, c'est au nord de Londres. Série limitée, très limitée, il n'y a que 25 exemplaires.
Non mais vous imaginez le prix de ce truc ?
Je vais vous dire ça, ah oui. Il y a toutes les options. Non mais donnez de sa chance au produit un petit peu,
Mathieu. J'imagine qu'il y a la clim là, oui forcément.
Alors vous avez des mitraillettes surtout, qui sortent de derrière les phares avant.
Elles sont quand même fausses les mitraillettes, Jean-Philippe.
C'est pour de faux, mais c'est hyper réaliste, j'ai vu les vidéos. Vous avez des plaques d'immatriculation qui pivotent.
Qui tournent.
Comme dans Sean
Connery. Oui, mais donc ça, c'est vachement pratique.
Vous avez l'écran de fumée à l'arrière. Vous avez le bouclier pare-balle qui sort à l'arrière de la voiture. À l'intérieur, vous avez le gros écran radar. Vous avez des petits boutons partout. C'est exactement le cahier des charges de Goldfinger qui a été respecté. Évidemment, ça a un prix. Allez, 3 millions d'euros. Une paille.
3 millions de quoi ? D'euros ? Ou de livres
d'euros.
D'euros. Mais si ça se trouve, on peut payer en 3 fois, donc c'est faisable. La livraison des voitures, elle est prévue l'année prochaine. Alors, pour la petite histoire, on se dit que James Bond et Aston Martin, c'est un couple anglais, un couple évident.
Non, il y a eu BMW dans les années...
Oui, et puis il faut savoir qu'au tout début de l'histoire, Aston Martin ne voulait pas participer du tout James Bond. Ils ne voyaient pas l'intérêt. C'est les producteurs qui avaient vraiment insisté. Ils ont eu raison d'insister. Vous avez absolument raison aussi. Aston Martin avait un peu disparu. Et puis, ils reviennent à la charge dernières années. Moi, je fais le pari que dans le prochain James Bond, l'Aston Martin, elle sera électrique. Parce que ça, c'est le grand truc de James Bond.
Mais oui.
Il faut coller à l'époque. Et si ça se trouve, cette voiture électrique, elle sera conduite par une femme. Parce que Daniel Craig, il a annoncé que c'était son dernier James Bond.
Une Jane Bond. Ça fait partie des rumeurs qui circulent.
Ouais.
Absolument, absolument.
Ouais. Peut-être même une femme noire. Comme ça, on aurait tout le politiquement correct qui serait réuni. Ouais. Ibrahim Malouf, vous êtes fan de la saga James Bond ou pas du tout ?
Un peu comme tout le monde. C'est-à-dire, je regarde, mais j'aime bien. Mais pas, je suis pas un dingo.
Vous avez jamais repris le thème de James Bond à la trompette ?
Je l'ai jamais repris, mais j'aime bien.
Oui,
je l'ai joué. Si je le jouais quand j'étais plus jeune, on jouait dans les orchestres d'harmonie et on jouait le thème de James Bond.
C'est marrant, on recevait Renaud Capuçon il y a quelques temps qui a sorti un album où il reprend des thèmes de cinéma et il nous disait qu'il avait eu du mal à sortir l'album. Enfin, il avait beaucoup hésité parce que dans son milieu, le classique, qui était assez cucéré, c'était vraiment très très mal vu qu'un grand violoniste reprenne des thèmes aussi vulgaires entre guillemets que James Bond, enfin qui sont pourtant des musiques classiques. Et vous vous en foutez complètement. Si vous voulez faire un album de reprise, vous n'allez pas vous...
Ah, je me prends pas la tête. Mais par contre, je comprends ce qu'il veut dire. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est fou parce que la musique classique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si la musique de film n'était pas là, ni en termes de popularité et d'amour pour la musique classique, ni en termes de tout en fait, même de style, de couleur. Donc voilà.
Nouvel album, Ibrahim Malouf, Sens est disponible. Ibrahim Malouf est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, le jour il est GG, expert sport d'Europe 1. La nuit, dans un célèbre cabaret parisien, il devient Gigi.
La grâce, la souplesse dans son juste au corps mauve et fuchsia au reflet d'argent.
Jérôme Lacroix s'apprête à entrer en compétition avec une enquête sur le handball, plus qu'un sport, un exemple pour la société tout entière. Pourquoi ? On vous explique juste après Shawn Mendes et Camila Cabello, Señorita, sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1 et c'est assez futé de votre part puisque ce soir on reçoit un artiste qu'on adore ici, plus que ça. On peut même l'avouer puisqu'Ibrahim Malouf est l'artiste préféré des baroques.
Mais non, c'est Florent Pagny. Ah
bien,
non.
Alors il faut la pardonner, elle fait partie de la génération dite des oreilles sacrifiées. Trop de boîtes de nuit dans les années 80, fatalement ça bouscule ton bon goût. Mais je suis là, moi Ibrahim, et en grand amateur de jazz, je sais apprécier votre œuvre. Votre dernier album, Sens, nous fait voyager. De l'album disponible, mais on disait vous fourmillez toujours de projets, Ibrahim Malouf, vous travaillez notamment beaucoup pour le cinéma, vous avez signé la musique du film Yves Saint Laurent, vous avez remporté un César pour la musique Dans les forêts de Sibérie. Ça c'est un travail très très différent, là il faut tout écrire, c'est... comment ça marche ?
C'est un peu différent, mais le processus de création est le même, c'est plutôt après, que ça devient différent parce que pour un album, je suis tout seul. Donc, je travaille seul, je fais un peu ce que j'ai envie de faire. Quand je travaille pour le cinéma, ou par exemple, là, en ce moment, je viens de terminer la musique d'une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Mathilde Amet, qui sera jouée
Monsieur
par Pierre Richard, voilà, Monsieur X, qui commence d'ailleurs...
En février.
Le 10 décembre.
Ah, le 10 décembre, ouais. pardon.
10 décembre. Et Théâtre de l'Atelier. Et en fait, c'est un peu le même genre de processus que pour le théâtre, c'est-à-dire que je collabore avec une ou deux personnes qui ont vraiment leur mot à dire, puisque c'est leur projet à eux, en fait, et c'est leur bébé.
Donc vous vous adaptez.
Et donc, voilà, exactement, je m'adapte. Donc, je dois à la fois être créatif, comme pour mes albums, et ne pas avoir peur d'inventer des choses. Et en même temps, il faut que ça corresponde à un projet précis, avec une image et un cahier des charges, etc.
Alors, Ibrahim Malouf, on a beaucoup de points communs, tous les deux. Vous êtes une star de la trompette. Moi, j'ai une star suisse du saxophone, ça, certains le savent. Et on a un autre point commun, on adore les séries. Je crois que vous adorez la série Black Mirror sur Netflix.
Ah, j'adore. Ouais,
moi aussi. C'est ma série préférée. Bon, enfin, en même temps, on n'est pas que deux au monde. Hein. On est deux, trois. Selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder justement sur Netflix ou sur les plateformes auxquelles on est abonné. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock. Et sa chronique, 17 minutes de gagner.
Arrêtez
Eva.
Avec Dieu, parce que chaque jour il revient, mais en fait je crois qu'il n'y est pas pour grand chose, vous savez.
C'est vrai, peut-être,
non, c'est
Eva,
juste
peut-être Eva. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Alors
à la
écoutez,
télé
bon, il voilà, n'y a rien à zapper absolument sur les écrans de télé ce soir. Il n'y a rien de flamboyant non plus, donc je préfère vous parler d'une série documentaire qui vient d'être mise en ligne sur le site d'Arte. C'est uniquement pour le site d'Arte et le titre est évocateur mais très difficile à prononcer, donc je vais me concentrer. Ça s'appelle On verra demain, excursion en procrastination. 7 épisodes de 9 minutes pour tout savoir sur ceux qui remettent à demain, voire à après-demain, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, en fait. Je ne sais pas si vous êtes de ces procrastinateurs.
Hélas.
Et d'après vous, ben justement, qui est le premier procrastinateur du monde? Vous savez comment il s'appelle?
Il y a un champion du monde?
Il y a un champion du monde, le premier au monde. Il s'appelle Dieu.
Au septième jour, Dieu était dans le gaz et se demanda si c'était vraiment capital d'ouvrir le dimanche. Dieu dit « Oh, et puis merde, je me recouche. Le reste, on verra demain. » La procrastination est née.
Et voilà. Alors, dans cette série documentaire, sociologues, philosophes, économistes ou auteurs procrastinateurs apportent leurs témoignages et leurs connaissances. C'est une série qui est très drôle. Sachez que d'illustres personnalités étaient de très grands procrastinateurs devant l'éternel.
Qui ?
Victor Hugo.
Non.
Victor Hugo, quand il écrivait Notre-Dame de Paris, enlevait ses vêtements, le donnait à son serviteur et lui disait « Allez le cacher dans une armoire ». Parce que tant que je suis tout nu, je ne peux pas sortir dans la rue, donc je serai obligé de finir d'écrire ce truc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a pas mal d'écrivains, paraît-il, qui ont recours à ça. Qui se mettent tout nus, parce que comme ça, ils sont obligés, ils peuvent pas sortir chez eux. Et parce qu'ils ont planqué les vêtements, en plus.
Je n'ose pas vous poser la question, Ibrahim Malouf, si vous êtes procrastinateur ou pas. En tout cas, c'est amusant, cette série. C'est surtout très bien documenté. C'est à picorer vraiment sans modération, tout de suite, ou demain, ou quand vous voulez. Donc ça s'appelle, on verra demain, excursion en procrastination. C'est sur le site d'Arte.
On va le regarder, ouais. Mais pas tout nu. Jean-Philippe Ballas.
J'ai un texto de Dieu qui dit super chronique et vous embrasse.
Remerciez-le.
17 minutes de gagner, c'était Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, vous qui vous demandez tout le temps à quel sport inscrire vos enfants, Jérôme Lacroix a trouvé. La Coupe du Monde féminine a lieu en ce moment au Japon. Jérôme suit les matchs des filles pour nous assidûment.
Ah ouais, oh, quelle bombasse.
Oui non, Jérôme, concentrez-vous sur le jeu. Et si le handball était le sport le plus exemplaire en termes de valeur et aussi d'égalité homme-femme? À tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, une émission à l'image des manifs du jour. 400 000 auditeurs selon Médiamétrie, 3 millions selon ma mère. Et surtout, comme les manifs, un joyeux foutoir. Puisque chaque soir, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre savoir, un seul sera élu chroniqueur du jour. Des chroniqueurs également pointus sur l'invité. Eva, si je vous dis Ibrahim Malouf...
Saxophone.
Pas loin, vous n'étiez pas loin. Ibrahim Malouf, dont je ne vous suggère pas, je vous ordonne d'écouter le nouvel album Sens. Ça va vous aider dans les bouchons, ça, ce week-end, parce qu'on n'est pas fini la grève.
Non, mais pas que dans les bouchons, vous le mettez
partout.
Tout le temps.
Mais là, c'est l'occasion de découvrir. Oui. Nous, on l'écoute depuis tout à l'heure, et franchement, ça me donne envie de me remettre à la musique, parce que oui, le saviez-vous, j'ai pratiqué moi aussi un instrument avant. J'avais 12 ans, quand j'ai découvert le saxophone avec Christian Dutour, un membre de l'AMR, l'Association pour la Musique Improvisée de...
Abrège.
pardon. C'est vrai que le temps presse et notre dernier concurrent du jour trépigne devant le micro. Il s'agit de l'inénarrable Jérôme Lacroix, un garçon qui bosse toujours bien ses sujets. C'est pourquoi Jean-Philippe Ballas, même s'il est votre rival aujourd'hui, je vous prierai de l'écouter respectueusement.
Je fais ce que je veux.
Jérôme, ne vous laissez pas déconcentrer, car vous avez peut-être trouvé le sport aux valeurs les plus saines.
Oui, écoutez ça. On repart le 16 décembre 2018, on est à Paris-Bercy. Les filles de l'équipe de France de handball sont championne d'Europe, ouais. Et est-ce que vous savez combien...
Vous jouez tellement bien, enthousiaste.
Mais ça, c'était super, moi je me rappelle très bien. Est-ce que vous savez combien d'argent chacune des joueuses a touché pour cette victoire?
10 000.
40 000 euros.
Ah, bon, bah, ça c'est bien.
40 000 euros, bon, autre ambiance. 29 janvier 2017, un an avant, les Bleus, les garçons, sont champions du monde. Champions du monde, c'est toujours à Paris. Et savez-vous combien chacun des joueurs a touché pour cette victoire? 40 000, bingo.
Aussi.
La même somme. Le handball en France, c'est ça. C'est parité égale résultat. Et ça marche depuis 1995, donc 24 ans. 28 médailles remportées par chacune des équipes de France, masculine, féminine. 18 pour les garçons, 10 pour les filles. Hein. On est quand même assez proche. Ce train de la parité, il démarre au milieu des années 90 et ça correspond à un énorme pari des dirigeants en place. Un pari également risqué financièrement parce que traditionnellement, les filles rapportent toujours un peu moins que les garçons. 1995, les Bleus garçons sont champions du monde. Premier titre pour la première fois, c'est le grand barouf, tout le monde est très heureux. Mais le hand, de la part des acteurs de l'époque, hein, c'est ce qu'ils disent, le hand est alors un sport macho. 4 ans plus tard, 99, les filles accèdent à une première finale mondiale. Et alors là, il y a un des dirigeants, le très charismatique Philippe Bana, qui est directeur technique national, qui l'est toujours, hein. Il veut que le match passe en direct à la télé. C'est un dimanche après-midi. Alors le problème, il le raconte lui-même, hein. C'est qu'à cette heure-là, à la télé française, il y a Drucker. Alors il appelle la direction de France Télévisions, il fait ce qu'il faut pour que le match soit diffusé en direct à la télé, ça fonctionne, le match passe à la télé, et ça fait 12 millions de téléspectateurs. Et par la suite, la fédération va tout axer sur la parité.
Alors, comment elle se manifeste, cette parité, concrètement?
Alors, ben voilà. Déjà, il y a les primes, on en parle. Égalité parfaite. 40 000 euros pour chacune, pour chacun, lors du gain d'une médaille d'or dans une grande compétition internationale. 25 000 euros pour une médaille d'argent. 20 000 pour une médaille de bronze. C'est partout pareil. Alors, on n'est pas encore à l'égalité salariale, mais ça, c'est géré par les clubs. Hein, c'est la question que vous posiez. C'est pas géré par la fédération. Ça, c'est les clubs, donc c'est autre chose. Il y a aussi une égalité de moyens mis à disposition par la fédération pour travailler. Et ça, c'est capital. Un entraîneur, 2 adjoints, 3 kinés, 1 médecin, 1 préparateur physique, 1 préparateur mental, 1 logisticien, des vidéastes, 1 attachée de presse. Pour un staff comme pour l'autre, c'est l'égalité. Il faut aussi souligner l'omniprésence des femmes dans les organigrammes. Depuis 2014, il y a une loi dans le monde du sport qui exige de combler le mieux possible les écarts entre les femmes et les hommes. Et ben, dès 2010, dans le hand français, ils font changer divers statuts pour réduire au plus possible les inégalités. Donc avec 4 ans d'avance et conséquence, aux élections de 2017, le conseil d'administration de la Fédé, et ben, il est majoritairement féminin. 51%, c'est quasiment unique au monde. Plus de femmes aux plus hautes responsabilités, bah en fait, c'est tout ce que réclame la société civile, hein, puis on dirait que ça fonctionne.
Moi qui connais bien le petit milieu du handball, je peux vous dire quand même que tout n'est pas parfait.
Alors, le gros point noir, mais c'est vrai, il faut le dire, c'est pas un tableau idéal que je veux brosser, c'est les droits télé du championnat de France. Bah oui. Les clubs, pas la sélection nationale, les clubs, aucune chaîne, il y a quelques semaines, a jugé ce championnat suffisamment intéressant pour investir. Alors, résultat, il n'y a pas de diffuseur télé type Canal+, ou Bein Sport. Si on se penche sur le tableau de l'égalité homme-femme, plus globalement dans le monde du sport, c'est vrai qu'on est encore très loin de bons résultats. En foot, par exemple, presque 400 000 euros de primes pour les Bleus côté garçons quand ils ont été champions du monde en Russie en 2018. C'était prévu 40 000, donc 10 fois moins pour les filles si elles avaient gagné le dernier mondial qui s'est déroulé en France. Alors ça reste difficile d'être reconnu, une histoire de reconnaissance aussi pour les femmes. Un seul exemple que je vous ai choisi à l'étranger, alors je vous le conseille, il est un petit peu extrême. Au Japon, le sumo, qui est un sport sacré là-bas, interdit aux femmes. À cet exemple, en avril dernier, lors d'une compétition, le maire de la ville où se tenait la compétition, près du cercle de combat, vous savez, des sumo, il est victime, il est pris d'un malaise cardiaque. Il y a plusieurs femmes qui se précipitent sur lui pour lui porter secours et elles franchissent ainsi le cercle de combat considéré comme sacré. Et bien, ces femmes, elles ont été maîtrisées manu militari et dégagées, priées de laisser monsieur le maire à son malaise cardiaque.
J'espère qu'il est mort. Hein.
Alors ça, je ne sais pas. La fédération de sumo, face au tollé que vous imaginez, a tout de même présenté des excuses.
Ah oui, quand même.
C'est scandaleux.
Les traditions, ça a du bon, mais dans certaines limites. Merci beaucoup, Jérôme Lacroix, pour ce papier positif. Optimiste en tout cas pour le handball. Mon cher Ibrahim Malouf, est-ce que vous êtes, on parlait tout à l'heure de l'épuisement physique, on parlait de la difficulté notamment liée à l'instrument de la trompette qui est un instrument très physique, est-ce que comme certains artistes français comme Jane ou encore L'Homme Pâle, vous êtes parfois épuisé de cette vie? Eux, ils disent que parfois ils n'en peuvent plus et que leur corps leur dit stop, il faut que j'arrête. Vous, ça vous arrive par moment de prendre des vacances aux Maldives parce que vous n'en pouvez plus?
On n'a pas du tout les mêmes parcours, donc je ne pourrais pas comparer. Moi, ça fait depuis l'âge de 7 ans que je fais des, 8 ans que je fais des concerts.
Vous êtes un athlète construit... de haut niveau, en fait.
C'est pas ça que je veux dire, c'est que j'ai construit mon parcours sur 30 ans. Eux, en fait, ils ont un succès à un moment donné fulgurant, sur Internet, fulgurant, et du jour au lendemain, ils se mettent à faire ce que moi, je fais aussi. Mais ils n'ont pas été préparés pendant des années à le faire. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils craquent.
Et voilà, tout est question d'entraînement, de talent, mais aussi d'entraînement. Ibrahim Malouf est avec nous jusqu'à 18h. Europe 1. À suivre, depuis l'incident diplomatique dit du comte de Bouderbala, pour qui il avait concocté un tagine alors que le type est originaire d'Algérie, on l'appelle OSS 118. Depuis, il vit dans la peur d'une nouvelle bourde, alors il les révise.
C'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis?
Les Japonais.
Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus.
Olivier Pouls, notre expert gastronomie, mais pas géographie, arrive pour votre recette de dernière minute, Délice in extremis, juste après la séquence préférée des enfants et des grands-enfants
mais
qui nous
grands...
écoutent.
Vous entendez les petites clochettes?
Oui, la mère Noël est avec nous.
Non, c'est pas moi la mère Noël. Enfin, je vais vous faire gagner des cadeaux, parce que sur Europe 1, tous les jours et jusqu'au 5 janvier, ne riez pas Mathieu, c'est la haute de Noël qui est de retour. Montagne de cadeaux à gagner, séjour au ski, des thalasso, des iPhones. Alors aujourd'hui, c'est Europe 1 et Brittany Ferries qui vous offrent une semaine pour deux personnes vers la destination de votre choix. Vous choisissez tout simplement le tout pour une valeur de 1 500 €. Pour jouer, vous vous inscrivez dès maintenant au tirage au sort en appelant le 39 21, 50 centimes la minute, ou vous envoyez le mot de passe. Alors le mot de passe aujourd'hui, c'est cadeau, mais vous l'écrivez vraiment en français, c'est A-D-E-A-U, pas KDO, vous voyez, par SMS.
Oui,
au 739-21, 75 centimes, plus le code du SMS, 3 messages pour jouer. Et puis vous serez également inscrit automatiquement au tirage au sort de la super haute de Noël le 25 décembre. Alors là, vous allez pouvoir repartir avec un scooter Peugeot et un séjour en thalasso.
Beaucoup d'informations extrêmement excitantes dans cette haute de Noël. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la seule émission qui pendant la grève ne vous fournit pas un service minimum mais un service complet. En ce 5 décembre, je m'y engage, nous serons aussi professionnels et rigoureux que n'importe quel autre jour. Bon après évidemment, faut voir les autres jours. Hier par exemple, certains dont moi avaient visiblement déjà débrayé. Mon cher Alex Zaffray, vous qui êtes mélomane, connaissez-vous la reprise de Just Because of You de Pierre Bachelet par Gilbert Montagneau?
C'est pas parce qu'il est aveugle qu'il est sourd, on peut pas dire ça, pardon.
Ce Gilbert soir, mieux que Gilbert Montagneau, c'est Ibrahim Malouf qui nous accompagne. Nouvel album, Sens, qui est déjà disponible. Vous dites, Ibrahim Malouf, je suis un timide, il faut souffler fort dans la trompette pour se faire entendre. Si j'avais pu choisir, j'aurais joué du piano ou du violoncelle. Quand on vous voit sur scène... On se dit que c'est pas possible d'être timide. Enfin, vous transformez. Vous êtes un acteur en fait quand vous montez sur une scène.
Mais la trompette m'a transformé. La trompette m'a aidé à sortir une partie de ce qu'on est tous, je pense, à l'intérieur des gens qui ont envie de s'exprimer, mais que je n'aurais peut-être pas fait si j'avais pas joué de trompette.
Il me semble avoir lu qu'à un moment vous avez dit que vous alliez un peu délaisser la trompette, la poser pour faire autre chose. Finalement, la trompette revient toujours. Vous êtes amoureux, vous avez une relation fusionnelle avec cet instrument.
Alors fusionnelle, oui, c'est sûr, comme une sorte de rapport amour-haine, comme parfois ça peut l'être avec les personnes qu'on adore. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai dit que j'allais mettre un peu la trompette de côté. Je m'y tiendrai à la fin de mes 40 ans, c'est-à-dire le jour de mes 41 ans. Je pose la trompette, je ferme la boîte et je vais la laisser de côté pendant quelques temps.
Mais pourquoi cette date des 40 ans? C'est étonnant d'avoir déjà matérialisé ce moment-là.
Parce qu'il faut bien choisir un moment.
Ouais.
Et que si je ne le fais pas, je vais continuer à en jouer alors que je sais que j'ai besoin de la mettre de côté un tout petit peu.
Vous connaissez mon côté people, Eva. Il paraît, Ibrahim, que vous êtes pote avec Quincy Jones, c'est vrai ça?
Pote, ce serait peut-être un peu trop.
Vous l'avez rencontré en tout cas plusieurs fois.
Il m'a pris un peu sous son aile ces 2-3 dernières années. Il m'a écouté en concert à Montreux, en Suisse. Il a beaucoup aimé le concert. En fait, c'est marrant parce qu'il a coïncidé de temps en temps, parce qu'il est souvent présent à Montreux, il vient voir des concerts. Et on m'avait dit avant le concert, il m'avait dit « Écoute, sois pas vexé, parce que Quincy, il se met sur le côté et quand il a faim, il s'en va. » Mais c'est vrai que s'il adore le concert,
il reste longtemps.
Il reste et il demande à manger sur place.
Donc vous le regardez.
Et moi, pendant tout le concert, je passais mon temps à jeter un œil. Et à un moment donné, j'ai vu arriver un énorme plateau de sushis. Je me dis, c'est bon, je l'ai. Et après ça, on a parlé une bonne heure après le concert. Et donc, il m'aime beaucoup. Il aime vraiment ce que je fais. Et depuis, je travaille avec eux régulièrement, avec lui.
Mais comment on fait pour jouer devant Quincy Jones? C'est-à-dire que il n'y a pas un stress qui vient, qui fait qu'on est moins bon ce soir-là? Vous avez été encore meilleur? Vous avez réussi à vous transcender? Ou comment c'est possible?
Je crois que l'adrénaline de toute façon fait une bonne partie du travail, mais surtout en fait moi c'était tellement énorme, je me disais pas Quincy va aimer ma musique, parce que c'est pour moi Quincy c'est juste le plus grand producteur de l'histoire, et en termes de disques discographiques, mais en termes de tout, enfin même sur des séries, sur des clips, sur des, juste c'est dingue, et dans tous les domaines d'ailleurs, en jazz, en classique, en pop, en tout, que je me disais de toute façon il va me regarder deux minutes, il va dire ah il est sympa ce petit arabe, et puis il va rentrer voilà. et en fait au-delà d'être un grand artiste, c'est aussi un découvreur de talent, et j'ai sous-estimé sa capacité à apprécier ma musique, et qui va pas forcément chercher dans quelque chose de toujours très efficace, mais qui cherche autre chose, et il a été sensible à ça.
Vous dites qu'il vous a pris sous son aile, ça veut dire qu'il va vous propulser aux États-Unis maintenant?
Lui et son équipe sont mes managers aux États-Unis aujourd'hui.
Ça c'est classe. Ouais. C'est qui ton manager aux States? C'est Quincy Jones qui s'occupe de moi. Lui, il est au rognon de veau, ce que vous êtes à la trompette. Son cœur de métier, c'est la gastronomie, même s'il lui est arrivé dernièrement de s'aventurer sur les terres du hip-hop. Pour nous livrer, sous le pseudo de Snoop Doggy Bag, son œuvre la plus aboutie, Gangsta Yoli.
Et je mange la Yoli dans un mortier. Là, il te faudra mettre coupé. Avec de l'huile, la Yoli doit se monter. Un peu de citron, oui, tu peux rajouter. Mais pas un œuf, tu vas te faire buter.
Wesh, Macaï, Snoop Doggy Bag est dans la soupe là. Bonjour Olivier Pouls.
Oui, et ça nous fait un point commun avec Ibrahim, c'est que Quincy Jones a lui aussi totalement craqué sur ce morceau. Et que je vous l'annonce en avant-première, c'est mon manager aussi aux États-Unis. On va probablement se croiser à Dallas, à New York, à San Francisco.
Oh là là, un featuring, ça c'est magnifique. Alors aujourd'hui, pas de blague, Olivier Ibrahim Malouf est originaire du Liban, pas de tagine, hein, comme l'autre jour avec le comte de Boudherbal.
Non, pas de tagine, ni de paella d'ailleurs. Alors je sais que vous aimez évidemment la cuisine libanaise, on en a mangé ensemble cet été.
Dans le cadre d'une émission sur Europe 1,
précise,
pour pas que les auditeurs pensent que vous étiez à Ibiza cet été.
Dans le club de l'été, vous avez fait un beau plateau. Et est-ce que vous connaissez, alors c'est pas un mauvais jeu de mots de Mathieu Noël, les ricaca?
Bah oui, bien sûr.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, ça se prononce pas comme ça en fait.
Nouvel incident diplomatique.
Comment ça se prononce alors?
En fait, c'est de l'arabe, ça se dit et, ça veut dire des choses fines.
C'est impossible à dire.
Et.
Ah oui, non, ça.
Parce que quand tu traduis évidemment en lettres latines, tu mets
et.
Ra'at.
Bon, ben je vais vous donner la recette des ra'at.
Pas mal. Vous dites bien.
Alors,
ouais.
ce sont ces petits cigares farcis de fromage à la feuille de brique. Ça, c'est extrêmement bon. Et surtout, c'est très, très facile à faire. Je ne sais pas si vous en faites chez vous, si vous connaissez la recette.
Non.
Je vais vous expliquer comment on fait. Alors, les feuilles de brique, on les trouve assez facilement dans les épiceries fines
ou dans les
supermarchés maintenant. Il vous faut un petit peu de fromage de brebis. Il vous faut des herbes fraîches. Alors, on peut utiliser soit de la menthe, soit du basilic, soit du persil pour ceux qui veulent. Il vous faut un œuf et puis il vous faut de l'huile pour les cuire. Alors, vous allez prendre votre feuille de brique. Et là, c'est un tout petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut la couper en deux et il faut arriver, en fait, à former les cigares. C'est ça qui est le plus difficile.
Ah oui, c'est là qu'on se plante.
C'est pas très, très difficile si on a le tour de main. Mais je vous l'explique en deux mots. Donc, vous farcissez avec votre fromage de brebis. Vous avez rajouté vos herbes hachées, un petit peu de poivre. Il faut rabattre les deux côtés, mettre un tout petit peu de jaune d'œuf de manière à faire en sorte que ça colle. Et ensuite, vous roulez le cigare comme ça. Et tout simplement,
comme les sushis.
Pratiquement.
Comme
c'est
les
pas
sushis
la main,
de
mais
Quincy
voilà, tout simplement en roulant. Et après, de l'huile dans une poêle, de l'huile bien chaude. On va les faire rouler dedans, c'est le cas de le dire, pour les frire de tous les côtés. Après, on les mange après les avoir rapidement épongés ou on peut les réchauffer au four. Et c'est croustillant à l'extérieur et moelleux dedans, vous savez que j'aime ça.
C'est votre spécialité. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Et bientôt en tournée aux États-Unis.
Évidemment, sous l'égide de Quincy qui s'occupe de tout, il vous prépare une tournée énorme.
Europe 1.
Ce n'est jamais facile, mais comme le disait Shuriken à Jean-Philippe après leur profugace rencontre mardi soir, les meilleures choses ont une fin.
Ah oui.
Oui, l'équipée sauvage touche à sa fin. Lequel de nos journalistes vous aura le plus impressionné aujourd'hui? La réponse dans une poignée de secondes.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Les amis, nous y voilà. Au terme d'une lutte sans merci ayant opposé les meilleurs journalistes d'Europe 1, ou en tout cas ceux qui ont pu venir et qui ne se sont pas mis en télétravail à cause de la grève, nous allons découvrir qui a été élu chroniqueur du jour, qui, par la qualité exceptionnelle de son travail, va susciter de la part de notre invité, le trompettiste Ibrahim Malouf, un... Et qui, par la qualité relative de son travail, va susciter plutôt un... C'est le moment du qui tout double. L'avenir de James Bond, le handball roi des sports co, la fin du monde vue par les scientifiques ou encore les secrets de Bruno Cocatrix, Anne Le Gall, pourquoi Ibrahim Malouf devrait-il voter pour vous aujourd'hui ?
Parce que parler des points d'effondrement pour le climat, c'est un sujet d'utilité publique et parce que face à un grand trompettiste comme vous, on ne peut pas jouer du pipeau.
Il y en a qui bossent leur petit argumentaire de fin. Jean-Philippe Ballas, pourquoi faut-il voter pour vous ?
Alors, il y a quelques temps, on avait donné un nom de marque de chips à l'antenne et le fabricant nous avait envoyé plein d'exemplaires. Moi, aujourd'hui, j'ai dit plein de fois Aston Martin. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi.
On le répète encore une fois. Jérôme Lacroix, pourquoi voter pour vous ?
Pour montrer que cette fois-ci, encore, eh ben, le sport peut faire évoluer la société. Voilà, le handball, égalité homme-femme dans le handball français. Une thématique de société, ça mérite d'être mis en avant.
Thierry Geffretin, pourquoi faut-il voter pour vous ?
Mais c'est simple, Ibrahim, il faut voter pour moi parce que vous êtes passé à l'Olympia. Et si vous êtes passé à l'Olympia, c'est parce que Bruno Cocatrix a créé en quelque sorte l'Olympia.
Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Vous savez que vous pouvez jouer d'ailleurs tous les matins, vous répondez aux petits sondages qu'on met sur Twitter pour attribuer 2 points à vos chroniqueurs préférés. Et c'est Jean-Philippe Ballas qui remporte aujourd'hui les 2 points.
C'est Jean-Philippe Ballas, James Bond, ça cartonne tout le temps.
Vous avez entendu Aston Martin.
Ils l'ont bien entendu, ils l'ont bien entendu. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Anne Le Gall.
Oh,
car vous
beaucoup.
Connaissez ma fibre environnementale, contrairement à ce que disait ce salopio Jean-Philippe Ballas sur mes voitures.
Elle est relative, votre très, fibre écologique.
C'est très important, oui. L'écologie, ouais. Ne polluons pas. Mais vous le savez ici, la voix de notre invité d'honneur compte triple. Ibrahim Malouf, sachant que c'était déjà aimable de leur part de se pointer malgré la grève, soyez sympa. Mais qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour ?
Je vais faire comme vous, Mathieu, parce que je trouve que c'est un sujet qui nous parle à tous et sur court, long, moyen et long et très long terme, et que c'est quelque chose qui est tellement plus global et important comme sujet que je pouvais pas ne pas voter pour la chronique de Anne.
C'est très beau.
Merci,
et surtout voter comme moi, c'est toujours un bon choix. Bravo Anne Le Gall qui remporte l'équipe est sauvage, la 73e journée déjà de l'équipe est sauvage, avec le fabuleux Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf, votre nouvel album Sens est disponible. Et si on veut l'applaudir sur scène, comment ça se passe, Eva ?
La grande tournée, c'est à partir de 2020. Toutes les dates, elles sont à retrouver sur le site internet d'Europe1.fr. Avec une grande date au mois de novembre 2020 au Zénith de Paris.
Le 4. Ouais.
Le 4.
Merci beaucoup, Ibrahim Malouf, d'avoir joué le jeu pendant ces 2 heures avec nous.
Merci de m'inviter.
Merci également à mes journalistes, Eva Rocken, Le Gall, Jean-Philippe Ballas, Jérôme Lacroix, Thierry Geffretin et Olivier Pouls. L'équipe est sauvage. Revient demain, 16h. Tout de suite, vous restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. C'était un ravissement de passer cet après-midi avec votre équipe et sauvage. Demain, on vous retrouve en public à 16h avec l'acteur et réalisateur Michel Blanc. Sourire assuré. À demain Mathieu, salut à vous.